Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. NCS, Fugue et Togo. Au programme, Haïti, migration et surexploitation. La justice de Namibie reconnaît les mariages des couples de même sexe conclus à l'étranger. Et manger local, ça vous dit? Bonne écoute!
Haïti, migration et surexploitation. Un texte d'Alain Saint-Victor et René Lexentus, paru le 10 mars 2022 dans la revue Nouveau cahier du socialisme. L'un des phénomènes marquants de l'histoire haïtienne du début du 20e siècle est celui de la migration. Ce phénomène prend une telle ampleur que durant les années 1920, il y a autour de 20% de la population active masculine haïtienne qui est employée à l'étranger, dont environ les deux tiers à Cuba et le reste en République dominicaine. À l'origine, spoliation, surexploitation et immigration. Précisons que durant la décennie de 1920, le pays est sous occupation états-unienne, 1915-1934, et que les déplacements de populations qui s'opèrent de façon cyclique s'expliquent par le besoin criant de main-d'œuvre des usines centrales sucrières qui se trouvent surtout à Cuba, mais aussi en République dominicaine. Ces centrales sucrières sont le résultat de l'expansion du capital nord-américain qui tire d'énormes profits de la grande quantité de terres disponibles et de l'abondante main-d'œuvre haïtienne importée. En général, on comprend mal pourquoi les capitalistes états-uniens n'ont pas autant investi dans l'industrie sucrière en Haïti qu'ils l'ont fait à Cuba et en République dominicaine. Selon une hypothèse discutable, l'une des raisons serait la difficulté pour l'occupant de prendre possession de la terre. Des études démontrent cependant que des compagnies états-uniennes ont accaparé plus de 266 000 acres de terre. Cela explique en grande partie pourquoi près de 300 000 Haïtiens et Haïtiennes, pendant l'occupation, ont dû quitter le pays vers Cuba et la République dominicaine. Tout laisse croire que dans ce nouvel impérialisme mis en place par les États-Unis dans les Antilles, les travailleurs haïtiens sont utilisés comme main-d'œuvre bon marché, quasi esclaves. Soulignons également que l'expropriation des terres de la paysannerie haïtienne s'est poursuivie bien après l'occupation militaire. Au cours des années 1940, en vue de ravitailler l'armée nord-américaine, la compagnie états-unienne Société haïtiano-américaine de développement agricole, SHADA, s'approprie plusieurs dizaines de milliers d'hectares pour produire du caoutchouc et de la pite, une matière textile extraite des feuilles de l'agave. Ayant perdu leurs terres, des milliers de paysans sont contraints de s'expatrier, principalement vers Cuba et la République dominicaine. Ce flux migratoire haïtien, qui se poursuit de façon irrégulière, constitue l'essentiel de la force de travail de l'industrie sucrière à Cuba jusqu'à la Révolution et en République dominicaine jusqu'aux années 1970. Haïti devient, au cours de cette période, un pays pourvoyeur de main-d'œuvre à faible coût. Cette migration de la force de travail ne touche pas uniquement les deux pays déjà mentionnés. En 1970, 30 000 Haïtiens vivent aux États-Unis. En 1973, 40 000 aux Bahamas. De 1974 à 1985, la croissance de l'immigration haïtienne en Guyane est si élevée que le nombre d'immigrés représente 20% de la population totale du pays en 1985. De façon générale, cette migration est constituée d'ouvriers, particulièrement aux États-Unis, d'artisans, de petits commerçants et d'agriculteurs, particulièrement aux Bahamas et en Guyane. Dictature, politique néolibérale et exode rural. À la fin des années 1960 et surtout durant la décennie 1970, Les politiques néolibérales mises en place par l'État haïtien sous la pression du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale, BM, contribuent à dégrader l'agriculture et à éliminer de nombreuses industries locales. L'exode rural s'intensifie. La population de la capitale, Port-au-Prince, augmente de façon exponentielle, de 50 000 habitants au cours de la décennie 1950 à 300 000 au milieu des années 1970. Cette surpopulation allait constituer l'armée de réserve en main-d'œuvre pour les compagnies de sous-traitance installées dans la capitale. Le nombre de celles-ci croît rapidement au cours des années 1970, passant de 55 en 1971 pour atteindre 200 en 1984. L'implantation des mesures néolibérales eut pour résultat non seulement la dégradation de l'agriculture, ce qui induisit un exode rural et la faillite des industries de l'État, mais aussi une augmentation importante du chômage, la sous-traitance ne pouvant absorber qu'une infime partie de la population en âge de travailler, 6 % en 1973. Cette situation sociale difficile est aggravée par la répression de la dictature des Duvaliers. Depuis le début des années 1960, le régime spolie systématiquement les caisses de l'État et exproprie violemment les paysans. Toutes les formes d'organisation sociale, syndicale, paysanne, étudiante, politique, journalistique, etc., sont réprimées dans le sang. Des milliers de personnes sont assassinées ou disparaissent. Beaucoup d'autres prennent le chemin de l'exil. Puisqu'aucune revendication ni critique n'est permise, la dictature ouvre la voie à l'exploitation impitoyable des ouvriers et des ouvrières particulièrement dans l'industrie du textile et de façon générale à l'implantation des politiques néolibérales comme ce fut le cas au Chili sous la dictature de Pinochet. L'exode rural devient donc le seul choix de survie de la classe paysanne qui, historiquement, nourrissait le pays. On assiste à un changement structurel imposé par les groupes sociaux dominants et le marché mondial pour satisfaire la demande étrangère, changement qui crée les conditions non seulement d'une dégradation de l'économie paysanne traditionnelle, mais aussi d'une désertification constante du sol. Ce sont ces conditions également qui vont pousser nombre d'habitants des classes populaires et de la petite bourgeoisie à quitter le pays au début des années 1970. Vous écoutez « Haïti, migration et surexploitation », un texte d'Alain Saint-Victor et René Lexantus, paru le 10 mars 2022 dans la revue « Nouveau cahier du socialisme ». Immigration haïtienne prolétarisée au Québec. À partir de 1968, le nombre d'immigrantes et d'immigrants haïtiens s'établissent au Québec s'accroît substantiellement. En 1974, cette immigration haïtienne occupe la première place parmi les immigrants reçus dans la province. C'est une immigration caractérisée par le gouvernement canadien comme une main-d'œuvre majoritairement non qualifiée, c'est-à-dire destinée à pourvoir des postes que les personnes du pays ne veulent pas. Cette immigration diffère de celle de la décennie 1960, qui était constituée principalement de professionnels travaillant dans le secteur tertiaire de l'économie. À l'époque, la politique d'immigration canadienne s'oriente sur les besoins de l'industrie, en particulier de l'industrie du textile, localisée à 80 % au Québec, principalement à Montréal, et où les salaires sont parmi les moins élevés au Canada. Les Haïtiennes sont surreprésentées dans le secteur où elles constituent plus de 50 % de la main-d'œuvre. Ces immigrantes, de même que d'autres femmes venues de pays comme la Grèce, le Portugal, la Colombie, travaillent dans des conditions très difficiles et le nombre d'heures de travail annuel est de 5,6 % plus élevé que la moyenne. De façon générale, ces travailleurs et travailleuses qui intègrent le marché du travail au Québec au début des années 1970 se trouvent dans une situation de précarité qui rend possible leur surexploitation. Statut juridico-politique vulnérable, incompréhension de la langue, isolement, racisme. les dessous de la poussée migratoire haïtienne en Amérique latine. Depuis les années 2000, on observe une tendance à la hausse du nombre de migrantes et migrants haïtiens vers l'Amérique latine. Cette tendance devient une grande traversée au cours de la décennie 2010, après le tremblement de terre qui a ravagé l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Selon les données de l'ONU de 2019, environ 1,5 million d'Haïtiens ont émigré ces 10 dernières années, soit 14,26% de la population haïtienne active. Leur nouvelle destination inclut le Brésil et le Chili, alors que le Mexique, le Panama, l'Équateur et le Pérou servent souvent de lieux de transit. Cette augmentation dans la région coïncide avec la transformation des politiques d'immigration. Le Brésil, notamment, allège sa politique de régulation de l'immigration de manière à attirer cette main-d'œuvre corvéable à merci dans le contexte des préparatifs de plusieurs compétitions sportives internationales, dont la Coupe du monde et les Jeux olympiques. Le capital transnational et la bourgeoisie brésilienne en profitent pour effectuer la construction d'infrastructures. L'économie brésilienne s'intéresse à ces migrants en quête d'espoir, mais sans saisir les raisons pour lesquelles le territoire haïtien est devenu si peu désirable pour ses citoyens et citoyennes. Dans un contexte où l'armée de plusieurs pays de la région, dont le Brésil, participe à l'occupation militaire d'Haïti sous le label de l'ONU, il s'avère pertinent de s'interroger sur la cause de cette grande traversée des Haïtiens vers les pays de l'Amérique latine. L'impensé de la grande traversée. Les trois dernières décennies constituent une période charnière dans la mise en œuvre des politiques néolibérales en Haïti. Depuis le retour à l'ordre démocratique en 1994, le pays est entré dans une seconde vague de néolibéralisation. Sous la menace des soldats américains, les gouvernements successifs sont contraints de privatiser les principales entreprises d'État, de réduire au minimum les investissements sociaux et de dégraisser l'appareil d'État. Si ces troupes sont parties en 1999, après avoir été progressivement remplacées par des missions militaires et civiles de l'ONU, l'année 2004 donne lieu à une autre occupation militaire par les États-Unis. La composante militaire a par la suite fait place au casque bleu de l'ONU sous le commandement de l'armée de terre du Brésil. Depuis lors, Haïti est sous la tutelle de l'ONU. La saignée néolibérale des masses urbaines et rurales se poursuit sous la pression des chars et des mitraillettes des militaires des Nations Unies. Dans le jargon des ambassades occidentales et du Conseil de sécurité de l'ONU, l'objectif de l'occupation onusienne vise la stabilisation des institutions haïtiennes. Celle-ci se définit par la restauration d'un climat sûr et stable, le renforcement des institutions gouvernementales et des structures d'un État de droit, la promotion et la protection des droits humains. Dans les faits, la présence militaire sert d'appui à un processus de néolibéralisation à grande échelle qui a pour résultat un accroissement de la pauvreté dans les principaux centres urbains et ruraux, ainsi que l'explosion d'un chômage de masse. Entre-temps, les entreprises publiques et des pans entiers du territoire sont livrés à vil prix aux multinationales. L'enjeu consiste à tenir en respect les mouvements sociaux haïtiens tout au long de ce processus dit de stabilisation du pays. Le bilan de la répression est lourd, dont des milliers de morts dans les quartiers populaires de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince et des villes secondaires du pays. Des centaines de femmes et d'enfants subissent des viols commis par des casques bleus. De surcroît, le choléra introduit par les troupes onusiennes tue plus de 10 000 personnes sur 800 000 infectées, sans le moindre dédommagement pour les victimes. Les troupes militaires d'occupation quittent Haïti en 2017, mais l'ONU maintient le pays sous tutelle à travers la mission civile des Nations Unies. Les deux décennies de tutelle génèrent une situation de chaos social et institutionnel où des gangs armés sème la terreur avec l'appui des agences gouvernementales et internationales. Ce chaos rend la majorité de la population haïtienne désireuse de quitter le territoire. En guise de conclusion, il ressort de tout cela que la migration haïtienne est essentiellement une migration de main-d'œuvre bon marché. Tout au long du XXe siècle, les différentes formes qu'elle a prises relèvent soit d'une situation de coercition, d'expropriation et de dépossession de la terre, comme cela a été le cas au cours de l'occupation états-unienne ou encore au cours des années 1940, soit de l'implantation des politiques néolibérales à partir des années 1970. Cette migration touche particulièrement la paysannerie, même si la petite bourgeoisie est également concernée, constituée en bonne partie d'exilés politiques, victimes de la dictature des Duvaliers dans la décennie 1960. Un demi-siècle plus tard, le capitalisme mondialisé et la financiarisation de l'économie ont provoqué la fermeture et la délocalisation de nombreuses industries à forte intensité de main-d'œuvre. Les immigrantes et immigrants, en tant que force de travail déqualifiée, deviennent de moins en moins importants pour l'économie des pays du centre. Cependant, les déplacements de population restent encore, et surtout aujourd'hui, un enjeu majeur. Réfugiés venant des pays du sud, théâtre des guerres impérialistes, réfugiés de la crise écologique, de la destruction des économies paysannes, de la paupérisation constante des classes moyennes. Cette nouvelle réalité de la migration explique en partie la montée de l'extrême droite occidentale et redéfinit du même coup les luttes sociales au niveau mondial pour sortir de la domination du capital. C'était Haïti, migration et surexploitation, un texte d'Alain Saint-Victor et René Lexentus, paru le 10 mars 2022 dans la revue Nouveau cahier du socialisme. La justice de Namibie reconnaît les mariages des couples de même sexe conclus à l'étranger. Un texte de l'agence AFP paru le 16 mai 2023 dans le magazine Fugue. La Cour suprême en Namibie, où l'homosexualité est toujours illégale, a reconnu le mardi 16 mai les mariages entre personnes de même sexe conclus à l'étranger dans une édition dont l'AFP a eu copie. La Cour suprême a estimé mardi 16 mai que renier les droits des conjoints étrangers de couples homosexuels mariés à l'étranger porte atteinte au droit à la dignité et à l'égalité de ces derniers. Un tribunal du pays avait refusé l'an dernier de reconnaître les droits d'un couple gay et ceux d'un couple lesbien composé chacun d'un ou d'une ressortissante namibien-namibienne et d'un étranger-étrangère. Johan Podjiter, namibien, avait épousé le Sud-Africain Daniel Digashu en 2015. La Namibienne Annette Seiler avait épousé en 2017 l'Allemande Anita Seiler-Lille. Ils avaient saisi la justice pour que le conjoint étranger puisse résider et travailler en Namibie, comme la loi du pays l'autorise pour les couples légalement mariés. Leur demande avait été rejetée en raison de l'interdiction du mariage homosexuel en Namibie. Une loi sur la sodomie, qui date de 1927, proscrit encore l'homosexualité dans le pays d'Afrique australe. Mais ces dernières années, la justice namibienne a été régulièrement appelée à se prononcer sur les droits des couples de même sexe ou la reconnaissance d'enfants de couples gays. L'Afrique du Sud est depuis 2006 le seul pays africain a autorisé le mariage des couples de même sexe. C'était « La justice de Namibie reconnaît les mariages des couples de même sexe conclus à l'étranger », un texte de l'agence AFP paru le 16 mai 2023 dans le magazine Fugue. Manger local, ça vous dit? Un texte de Laurence Deschamps-Léger, paru le 23 mai 2023 dans To Go. Manger local, ce n'est pas seulement faire plaisir à nos papilles avec des produits savoureux qui n'ont pas parcouru des centaines de kilomètres. C'est aussi prendre soin de l'environnement et encourager l'économie d'ici. C'est quoi manger local? Laurence Deschamps-Léger mange local depuis plus de 10 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle privilégie les aliments qui proviennent de la province, de la région ou même de son jardin. Plus c'est prêt, mieux c'est. Pourquoi manger local? Pour elle, il s'agit d'un mode de vie en accord avec ses convictions. Vivre au rythme des saisons, cuisiner avec des produits frais, découvrir la diversité des aliments qui poussent sur notre territoire, non, on ne mange pas que du navet quand on mange local. Faire des choix responsables pour l'environnement, soutenir l'économie d'ici. L'agroalimentaire intéresse la jeune femme depuis ses études en développement international. Cela lui tient à cœur à tel point qu'elle en a fait une vocation. Celle qui a déjà travaillé pour les fermes Lufa crée désormais des articles de papeterie mettant en vedette des fruits et des légumes locaux. Quand on voit son calendrier ou ses affiches sur son site Locolo, on n'a qu'une envie tellement c'est beau. Devenir locavore, nous aussi. Elle a également cofondé On s'aime, un OBNL qui propose différents événements en lien avec l'alimentation locale, entre autres l'école du potager urbain. C'est difficile manger local? C'est sûr qu'on n'est plus limité dans nos choix, mais il ne faut pas le voir comme une privation. J'essaie plutôt de développer un sentiment d'appréciation pour ce que je mange. On a quand même accès au Québec à une belle diversité d'aliments, produits laitiers, œufs, viandes, légumineuses, etc., en plus des fruits et légumes. On peut cuisiner différemment, redécouvrir des aliments, adapter des plats. Au début, ça demande du temps et de l'organisation, mais rapidement, notre éventail de recettes va s'élargir. C'est pourquoi il ne faut pas se mettre de pression, précise la jeune femme. On opte donc pour le local graduellement, en adoptant de nouvelles habitudes, un navet à la fois. 3 astuces pour manger local. 1. Avoir un potager. Que ce soit dans la cour ou sur le balcon, on peut faire pousser presque tous les légumes. On peut aussi faire pousser des fines herbes ou faire ses germinations. Comme ça, on a toujours de la verdure à portée de main. Jardiner, ça permet d'apprécier pleinement ce qu'on a dans notre assiette, car on sait tous les soins qu'on y a apportés, souligne Laurence. 2. Regardez les étiquettes. À l'épicerie, on regarde les étiquettes pour connaître la provenance des aliments. On recherche la mention « Aliments du Québec » sur les produits frais et surgelés, les conserves. En ce qui concerne la viande, en découvrir la provenance est plus difficile. Il est bien sûr possible de consommer de la viande bio produite au Québec, mais c'est plus cher. La solution? Manger moins de viande, répond en riant Laurence, qui a choisi le végétarisme comme alimentation. Ou encore, on peut se procurer de la viande dans une boucherie où les employés sont plus à même de nous indiquer d'où elle vient. 3. Transformer pour mieux conserver. Laurence avait l'habitude de faire des conserves à l'automne. Tomates, cornichons, carottes, gelée de poivrons rouges. Lorsqu'elle manque de temps, elle opte plutôt pour la congélation et la déshydratation. Peu importe la méthode utilisée, c'est une bonne façon de manger local à l'année. Et l'hiver, on fait comment? Bon, on ne se le cachera pas. Le Québec étant une contrée nordique, la papaye et la goyave n'y poussent pas tant, hein? On peut quand même trouver une diversité de fruits et légumes à manger en hiver. Pensons bien sûr aux légumes racines, qui se conservent longtemps, comme le navet, on n'y échappe pas. Le panais, les carottes, le topinambour, la betterave, la rabiole, le céleri rave, sans oublier les pommes, le poireau, l'oignon, l'ail, etc. Pourquoi ne pas vous abonner à un panier bio d'hiver auprès d'un fermier de famille? On peut agrémenter le tout de fruits et légumes de serre, comme les fraises, la tomate, le concombre, la laitue, le bok choy, le poivron. Toutefois, il faut savoir que la culture en serre a un impact important sur le climat à cause de la consommation d'énergie. Beaucoup de serres sont chauffées au mazout, un combustible fossile qui a un lourd bilan GES. On pense aussi à la section des surgelés à l'épicerie, où on trouve des produits québécois comme des mélanges de légumes. Ça dépanne. Au bout du compte, la clé, c'est la saisonnalité. On profite tellement plus des aliments lorsqu'on les savoure en saison. C'était « Manger local, ça vous dit ?» un texte de Laurence Deschamps-Léger, paru le 23 mai 2023 dans To Go.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.usevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, André Lebeau et Diane Métaillé à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.